Hello ma cop, j'espère que tu vas bien et que tu vis ta meilleure vie. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de prendre une pause. Durant ces derniers mois, nous avons vu tout ce qui a trait à la motivation, la productivité, l'entrepreneuriat, l'organisation. Et si aujourd'hui, on apprenait à prendre une pause ? Dans le livre de Rachel Omera qui s'intitule « Pause », l'auteur nous partage une multitude de conseils pour apprendre à prendre du recul et des pauses dans ce quotidien effréné. Dans ce livre, on comprend bien que prendre du temps pour soi est une affaire sérieuse. Comment te sens-tu lorsque ton réveil sonne ? Est-ce que tu te sens pleine de motivation, d'entrain et d'énergie ? Ou au contraire, tu te sens bien trop fatiguée pour affronter cette nouvelle journée ? Si c'est la deuxième réponse, alors il est peut-être temps de prendre une vraie pause, réévaluer tes priorités. Je te souhaite une excellente écoute. Partie 1. Les signes qui prouvent que tu as besoin d'une pause. Une pause est un moment de réflexion et de détente pendant lequel on prend le temps de se réaligner avec nous-mêmes et notre intuition. Les deux signes les plus courants sont la démotivation totale au travail, même si tu aimes ton travail, et les mauvaises performances. L'auteur nous partage sa propre expérience pour illustrer le propos et nous dit qu'elle a constaté ces signes lorsqu'elle travaillait chez Google. Au début, elle trouvait son travail très épanouissant, très enrichissant, mais avec le temps et petit à petit, elle se rendait compte qu'elle commençait à fatiguer. Elle avait du mal à faire avancer les choses aussi vite que ses supérieurs le souhaitaient. Accablée et totalement épuisée, elle a donc perdu tout son enthousiasme et sa motivation. Sans surprise, elle était totalement improductive. Elle sentait qu'elle avait besoin d'une pause pour se remettre les idées au clair. Les mauvaises performances et le mécontentement sont des indicateurs assez précis que prendre une pause pourrait être une bonne option. Un autre signe est la surutilisation de ces appareils digitaux. Si tu remarques que tu utilises même ton téléphone ou ordinateur lors de tes jours off et tes pauses, c'est un excellent indicateur qui t'indique qu'il faut te déconnecter et prendre du temps pour toi. Il ne faut pas considérer le fait de prendre une pause comme étant quelque chose de dramatique ou de négatif qui va nous freiner dans nos projets, bien au contraire. Faire une pause peut t'inviter à explorer de nouvelles opportunités et te rebooster dans ton travail. Petit exercice pour toi. Reste attentive à ton comportement. Es-tu souvent irrité, énervé, contrarié dans ton travail ou bien es-tu accro à la technologie ? Si tu réponds oui à l'une de ces questions, commence à planifier une pause dans ton agenda, c'est que tu en as peut-être besoin. Partie 2. Planifier des moments de pause. Une pause peut être relaxante et amusante et elle peut avoir un tout autre objectif que simplement décompresser. Prendre un temps mort, c'est accomplir quelque chose d'extrêmement important pour soi. Et pour ce faire, tu dois savoir quelles sont tes aspirations et tes priorités. Les aspirations sont tes désirs les plus profonds. Quand on a la tête dans le guidon, on se laisse très facilement distraire et on ne prend plus le temps de nous connecter à nos aspirations profondes. Alors comment découvrir ce qui compte le plus pour toi ? Eh bien, il y a une petite astuce pour nous aider à comprendre tout ça, c'est ce qu'on appelle le test pour ça. L'auteur nous partage une astuce que je vais à mon tour te partager. Commence par penser à quelque chose que tu veux. Maintenant, demande-toi pourquoi tu le veux en ajoutant « pour que ». On nous partage l'exemple de Bob qui veut de l'argent. « Pourquoi ?» se demande-t-il, « pour que je puisse partir en vacances ». Mais il ne s'arrête pas là, il ne cesse de se poser la même question. Il veut des vacances pour pouvoir faire du saut à l'élastique. Mais pourquoi ? Eh bien, faire ça le ferait sentir plus vivant. Et là est la fin de la chaîne. Le véritable désir de Bob est de se sentir plus vivant. Et c'est le premier pas. Une fois que tu sais quels sont tes désirs, tu peux commencer à planifier ta pause pour y répondre exactement à ton besoin. L'auteur nous suggère de faire un brainstorming et de faire un croquis de la pause idéale. Ensuite, note des mots-clés et des idées diverses. Il peut s'agir de lieux ou d'activités comme plage, comme vélo, comme lire, écrire. Écris tout cela dans ton agenda pour t'en souvenir. Il faut maintenant poser ses intentions. Pense à tes aspirations et demande-toi ce que tu aimerais accomplir pendant ta pause. Un exemple, apprendre à profiter de l'instant présent, profiter de ses proches, etc. Partie 3. Faire le point sur ses ressources. Il est essentiel de savoir ce que tu veux accomplir pendant ta pause. Mais il y a autre chose à considérer avant de se lancer, les ressources à ta disposition. L'auteur nous parle des trois cadrans de pause. Pour cela, nous invite à penser un peu au tableau de bord d'une voiture, avec son écran nous indiquant la quantité de carburant et d'huile dont on dispose avant de prendre la route. Eh bien, il est tout aussi vital de jeter un œil sur tes cadrans de pause avant de partir. De cette façon, tu sauras que tu as suffisamment d'essence dans le réservoir pour atteindre ta destination. Commence par les deux premiers cadrans. Ceux-ci mesurent tes actifs matériels, argent et temps. Le cadran de l'argent est la première chose que tu dois regarder. Disons que tu prends une pause du travail, vas-tu prendre un congé payé ou bien un congé sans solde? Ensuite, il y a le cadran de l'heure. Cela t'indiquera le temps dont tu disposes pour faire ta pause. Et il est essentiel que tu disposes de suffisamment de temps. Maintenant que tu as pris connaissance des cadrans de temps et d'argent, tu peux jeter un œil à ton cadran d'activité. Il s'agit essentiellement d'un outil pour t'aider à évaluer les activités que tu peux planifier compte tenu de tes ressources disponibles. Tu auras peut-être beaucoup de temps, mais pas beaucoup d'argent. Dans ce cas, un séjour à la découverte de ta ville pourra être intéressant. Si tu as à la fois du temps et de l'argent, pourquoi pas envisager de voyager. Si tu manques d'argent et de temps, alors pourquoi pas essayer une promenade dans un parc ou un pique-nique avec tes amis. Comme tu peux le voir, les trois cadrans sont interdépendants. Partie 5. Tire le meilleur parti de ta pause et détache-toi des pensées limitantes. Se détacher des pensées limitantes est super important. Une croyance limitante est profondément enracinée en nous et nous la considérons comme étant une vérité vraie. Lorsque les choses se compliquent, on a très vite tendance à se réfugier dans nos pensées limitantes. En fin de compte, elles peuvent nous empêcher à faire ce qui nous tient vraiment à cœur. Mais une fois qu'on commence à remarquer et à comprendre nos croyances limitantes, on peut commencer à les transformer et à les changer. Ces vieux schémas de pensée sont ce que l'auteur appelle des boucles de négativité stockées dans notre bibliothèque mentale. Nous avons différentes peurs. La peur de perdre le contrôle, de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. Nous avons des comportements d'auto-sabotage qui nous disent qu'on ne mérite pas de prendre des pauses, qu'il est préférable de rester dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Grâce à ce que les scientifiques appellent la neuroplasticité, la capacité de notre cerveau à créer de nouvelles voies neuronales, on peut donc transformer ses pensées négatives en une nouvelle playlist mentale plus positive et ainsi changer la structure même de nos pensées et notre attitude. Un excellent exercice que je conseille est de verbaliser la pensée limitante, comprendre d'où elle vient et à quel moment elle intervient, puis la contredire avec un contre-exemple et répéter l'opération. Les croyances limitantes sont profondément ancrées. Il faut donc du temps et des efforts pour les changer. Mais continue à faire ce type d'exercice régulièrement. Sois-en sûr, tu verras une amélioration progressive. Partie 6. Encourager le positif. Une pause ne devrait pas être une to-do list interminable de choses à faire. Le temps libre est précieux, il est donc important de ne pas le perdre en tombant dans ses vieilles habitudes, en perdant du temps sur Internet ou en dormant jusqu'à très tard le matin. Avant d'entamer ta pause, pense à écrire entre 3 et 5 règles claires pour t'aider à avoir une bonne pause ressourçante. Ces règles peuvent être la limitation de l'utilisation de ton smartphone à 30 minutes par jour, désactiver toutes tes notifications. Pour changer ces mauvaises habitudes, il ne suffit pas seulement de les abandonner, je pense que tu l'as bien compris, il faut la remplacer par une habitude saine. Prends soin de toi, de ta santé mentale, promène-toi dans un parc ou dans la nature, octroie-toi des moments bien-être et ressourçants. L'auteur nous suggère de penser sur le long terme. Quel changement souhaites-tu apporter à ta vie après ta pause ? Réfléchir à tes habitudes est un bon point de départ. L'auteur a partagé les habitudes qu'elle trouvait épanouissantes et qu'elle souhaitait conserver. Il s'agit notamment de prendre une pause thé tous les jours dans l'après-midi, d'inviter des amis à dîner une fois par mois, de bloguer et de tenir un journal. La liste des habitudes qu'elle avait hâte de se débarrasser comprenait par exemple le fait de se ronger les ongles, de regarder un peu trop la télévision, de boire un peu trop d'alcool et de passer beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Elle a également pris le temps d'identifier ses compétences et ses forces, ce qui l'a aidée à réfléchir de manière plus productive au type d'emploi pour lesquels elle souhaitait postuler après sa pause. Partie 7. Après ta pause, que se passera-t-il ? Pour faciliter la réflexion, tu peux te poser quelques questions révélatrices comme « Qu'as-tu tiré comme leçon lors de cette pause ? En as-tu appris davantage sur tes aspirations ? Veux-tu continuer sur le même chemin ou complètement changer de voie ? Qu'est-ce que tu ne tolères plus dans ta vie ?» Répondre à ces différentes questions peut t'aider à mettre les choses en perspective. L'auteur nous suggère de créer une sorte d'inventaire de nos forces. C'est un bon moyen pour garder confiance en soi et en ses compétences. Lorsque l'auteur a fait le point sur ses talents et ses atouts, elle a découvert qu'elle était une femme performante, positive, encourageante. Le savoir l'a aidé à trouver sa nouvelle voie professionnelle. La croissance est le résultat de l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Si tu as passé ta pause à apprendre à te connaître, alors c'est une nouvelle compétence que tu as développée. Prendre le temps de faire une pause comme une année sabbatique en vaut la peine. C'est à la fois nourrissant et régénérant. À la fin de ta pause, tu auras une compréhension beaucoup plus profonde de tes véritables besoins et désirs. Et cela te préparera assurément à tes futures nouvelles aventures. Pour conclure, si tu commences à te sentir mal en allant au travail, alors il est peut-être temps de prendre une vraie pause. Commence petit à petit et planifie une mini pause dès aujourd'hui. Éteins ton téléphone, vide ton esprit de toutes les distractions et concentre-toi sur toi. Il est temps de prendre une vraie pause. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur l'importance de prendre une pause du livre de Rachel O'Meara. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré à prendre du temps pour toi, à prendre du recul et surtout à prendre une pause comme il se doit et en tirer les enseignements positifs pour le post-pause. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas faire après ta pause? C'est aussi important d'y penser. Et en attendant la suite, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, prends bien soin de toi.